L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème « Demain ne meurt jamais », un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette seconde journée édition 2023, l'AREF, qui marque la rentrée des entreprises de France avec le MEDEF et l'ensemble de partenaires présents. Il est 10h40, nous sommes en direct, on va parler bien évidemment de construction de la ville, de fabrique de la ville et de la construction de logements, mais de l'immobilier au sens large, de l'industrie immobilière, de ceux qui font souche au quotidien pour le logement des Français, car je rappelle que bien évidemment, l'industrie immobilière n'a pour but que de loger les Français, qu'ils soient en mobilité pour les activités professionnelles, mais ça peut être aussi des étudiants, ça peut être aussi des retraités qui cherchent à se loger. C'est la location, c'est l'acquisition, c'est tous ces sujets qui vont être évoqués sur une table ronde spéciale conçue et produite par nos confrères aussi et nos amis d'Action Logement. On va parler notamment des orientations qui ont été prises suite au Conseil national de la refondation. Pour en parler, on a réuni un parterre de personnes qui permettront d'orienter et d'évaluer les difficultés aujourd'hui que traverse la construction de logements neufs et des plans qui ont été mis en place pour pouvoir essayer de soutenir cette activité. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau le président d'Action Logement, Bruno Arcadipane. Bonjour Bruno.
Bonjour Sylvain, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous Bruno, et vous venez d'ailleurs d'être réélu il n'y a pas si longtemps à la tête d'Action Logement. Merci et félicitations pour cette élection. Merci encore une fois également à Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, d'être avec nous, le patron de la FPI. Bonjour Pascal.
Bonjour Sylvain, bonjour à tous.
Comment ça va Pascal ?
Ça pourrait aller mieux.
Voilà, on va parler des sujets autour de la construction de logements. Merci Pascal. Il représente le pôle habitat de la Fédération française du bâtiment. C'est Philippe Jarlot. Bonjour Philippe.
Bonjour Sylvain, bonjour à tous et à toutes.
Comment ça va Philippe ?
Eh bien moi je pense que dans les difficultés, il faut savoir rebondir. Et voilà, c'est tout un travail qu'on doit tous faire ensemble pour trouver des solutions et bien sûr aussi donner nos opinions et nos conseils à ceux qui nous dirigent.
Le contexte actuel, il n'a échappé à personne que, à la fois structurellement et à la fois conjoncturellement, l'industrie immobilière traverse une crise, j'allais dire presque sans précédent. Moi, j'ai l'âge d'avoir connu trois crises immobilières. Je pense que Pascal aussi, dans son parcours, a connu, ainsi que Philippe, des crises successives. Celle-ci a la particularité d'avoir une rapidité et d'une violence inouïe. Je vous donne juste quelques chiffres, par exemple sur les taux d'intérêt, c'est plus de 500 points de base d'augmentation en moins de 18 mois. C'est une augmentation de près de 48% de la demande, ne serait-ce que par exemple sur le marché du parc locatif privé, avec une offre qui ne cesse de se réduire, une vraie difficulté. Une construction de logements neufs, on peut le dire, en panne, véritablement en panne, avec des régions qui accusent pour certaines des baisses de l'ordre de 30, voire 40% dans certaines régions. Bref, c'est une vraie difficulté. À la suite de ces éléments-là, bien évidemment, le gouvernement l'exécutif attaché d'y trouver un remède en organisant le Conseil national de la refondation dans le volet logement, en y associant les parties prenantes. À la suite des annonces faites sur le compte-rendu qu'a donné d'ailleurs Elisabeth Borne, la Première Ministre, sur le Conseil national de refondation, est prévu un vaste plan d'acquisition avec Action Logement, avec CDC Habitat, les opérateurs, pour soutenir effectivement dans ce contexte de crise l'industrie immobilière. Je vous demanderai, messieurs, si vous voulez bien, pour démarrer, dans ce contexte qui n'est pas un contexte facile, d'avoir votre première analyse justement, et je vais commencer par vous Bruno. Vous avez pris une décision forte, très forte, c'est de soutenir, et d'ailleurs dans le communiqué de presse, vous vous engagez d'ailleurs à soutenir pour le logement des Français, pour les salariés, avec un vaste plan, c'est inédit, un plan où vous allez fabriquer, acquérir 30 000 logements pour l'emploi.
Oui, alors, c'est un vaste plan, en effet, très important, mais ce n'est pas une nouveauté chez Action Logement. Action Logement, le lien emploi-logement, on le gère depuis 70 ans et depuis toutes ces années, on collecte un pourcentage de la masse salariale des entreprises Alors, à l'époque, c'était 1% pour les entreprises à partir de 10. Aujourd'hui, c'est 0,45% des entreprises exclusivement supérieures à 50. Je vous fais pas le détail et je passe rapidement sur toutes les ponctions que le groupe Action Logement a subi comme l'ensemble du marché du logement social. Et donc, je me permettrai de faire un léger distinguo, Sylvain, dans ce que vous venez de dire, entre d'un côté le CNR et de l'autre côté notre plan à 30 000 qui, s'ils sont tombés dans la même temporalité, sont quand même deux sujets qu'il faut bien distinguer.
Ah, c'est... D'accord, ok.
Il faut bien distinguer, pourquoi ? Parce que notre plan à 30 000, c'est une négociation qu'Action Logement a menée pendant la négo de la nouvelle convention quinquennale du groupe. Ce sont deux négos qui sont extrêmement distincts. Donc, en effet, il y a eu, je ne vais pas dire un mélange des genres, mais c'est tombé au même moment. La Première ministre a fait cette annonce au moment du CNR, mais peut-être parce que l'ensemble du CNR a eu des arbitrages négatifs, pour être clair. Je laisserai les professionnels de l'immobilier, de la construction, donner leur avis tout à l'heure. Mais pour être très clair, je crois qu'il y a eu beaucoup de travail et beaucoup d'attentes autour du CNR, dans un marché qui s'est retourné. Très clairement, le marché de la construction et de la promotion immobilière était plutôt un marché qui était en phase ascendante sur les dernières années et qui tout d'un coup se retourne. Et là, c'est nouveau par rapport aux crises précédentes. Et donc, Action Logement et les partenaires sociaux du groupe autour de la table, je rappelle que nous avons les organisations syndicales et deux organisations patronales, le MEDEF et la CPME, et qu'à ce titre, les grandes fédérations siège aussi autour de ce conseil. Et c'est là où nous prenons nos responsabilités et nous avons proposé au gouvernement de faire un plan massif d'achat, notamment en VFA, de 30 000 logements. Donc ce sont deux choses qui sont distinctes. Si vous reprenez les discussions de départ du CNR, à aucun moment vous ne retrouverez dans ces négos les 30 000 logements. On l'a apporté à la fin parce qu'on sentait que le marché était totalement en train de s'arrêter.
Bien sûr.
Et voire de se retourner. Il faut faire un distinguo entre un ralentissement et un retournement. Là, la période que l'on vit est pour moi...
C'est important que vous nous l'expliquiez pour le public, justement.
Pour moi, est une période totalement inconnue pour tous ceux qui sont autour de la table, voire pour l'ensemble des mondes de la construction, de la promotion du logement privé, intermédiaire ou social. C'est unique. Donc, heureusement que CDC a aussi pris des engagements.
17 000 logements.
17 000 logements. Et que le groupe Action Logement lance un plan massif, un plan qui va à la fois être rapide et efficace. Je rentrerai peut-être plus dans le détail tout à l'heure, parce que je vais laisser du temps de parole à mes collègues, mais c'est là où il faut être très fin dans l'analyse de toutes ces problématiques, parce que là, c'est vrai, c'est pas un choc, c'est un mur qu'on est en train de prendre.
Merci de ces précisions, et vous avez raison, autant pour nous. Il faut bien préciser que vous aviez déjà engagé de façon très claire ce plan massif d'acquisition des 30 000 logements, indépendamment, je reprends vos termes, des conclusions du CNR. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Il s'agit qu'il y a parfois des temporalités un peu intéressantes. En tout cas, c'est tombé au même moment. Donc je précise bien, évidemment, que vous aviez déjà engagé. C'était dans le cadre, d'ailleurs, du renouvellement de la convention que vous avez d'ailleurs re-signé pour une période de 5 ans.
On l'a re-signé pour la première fois, on l'a signé avec la Première ministre, les ministres autour de la table. Ça a été une convention quinquennale qui a été extrêmement difficile, négociée durement, faut le dire, notamment avec Bruno Le Maire. Mais c'est une convention quinquennale qui est d'un très haut niveau. Très haut niveau politique, je pense que le gouvernement peut se féliciter notamment d'avoir signé cette convention quinquennale, parce que sinon la situation serait bien pire encore. Efficace pour le secteur, parce qu'on le verra dans le détail, c'est quelque chose qui va donner un peu de souffle plutôt rapidement, et puis très bonne pour nous, parce que ce lien emploi-logement, s'il n'y a pas d'offres, on ne sait pas loger nos salariés au plus près de leur bassin d'emploi.
On est au cœur de la problématique, au cœur du sujet. Pascal Boulanger, à l'écoute de ce plan massif, je pense que c'est plutôt, à votre rencontre, une adresse qui est plutôt bonne, avec un signal très positif. Qu'est-ce que vous en pensez en quelques mots, justement, et une réaction sur ce que vient de nous dire Bruno Arcadipane?
Tout à fait en phase avec ce que vient de dire Bruno Arcadipane. Je voudrais même préciser un peu les propos de Bruno. Quand le CNR logement est créé, on a quand même une mini-crise qui est une crise de l'offre. Et le CNR logement, c'était aussi fait pour débloquer un peu d'offres. Ce qu'a voulu nous dire Bruno, je pense, c'est que on n'avait pas du tout cette crise de la demande. Et en plein milieu du CNR, les travaux du CNR ne sont pas encore sortis, que le marché se retourne. Mais il y avait quand même au départ, ça date depuis les élections municipales de 2020, une crise totale de l'offre, puisqu'on avait des maires très réticents à signer les permis de construire. Après, il y a eu la crise des matériaux, etc. Bon. Donc le CNR logement, au moment de la création du CNR logement, nous, promoteurs, on ne pense pas à Action Logement, pour être très clair, on ne pense pas à CDC Habitat, puisque nous n'avions pas de problème de commercialisation. Et comme vient de dire Bruno Arcadipane, en plein milieu, patatras, ça s'effondre.
C'est clair. Et d'ailleurs, à tel point que on voit des sociétés immobilières, des promoteurs immobiliers, pour dire les choses comme elles sont, depuis le 1er janvier 2023, qui sont aujourd'hui économiquement en grande difficulté, pour la plupart, pour certaines, même menacées. On est d'accord là-dessus.
Alors, écoutez,
on n'est pas sur une crise qui est une crise passagère, comme l'a rappelé très justement Bruno Arcadipane, qui peut, d'un point de vue économique, menacer l'équilibre économique de vos adhérents à l'AFPI.
Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a connu pas mal de crises, les cheveux blancs aidant un petit peu à voir tout ça. Cette crise est multifactorielle. On a à la fois une crise de la demande, une crise de l'offre, une crise des matières premières, une crise du financement, une crise psychologique. Donc oui, effectivement, il y a des entreprises qui sont en difficulté parce que on en a connu, mais à chaque fois, on avait un gouvernement qui tout de suite nous appelait mes prédécesseurs à la Fédération, pour essayer de trouver des solutions. Et là, on a le sentiment d'un espèce de laisser-aller, et donc on n'a pas de solution immédiate, alors que nous, pendant le CNR, pendant la commission Rebsamen, pendant les assises du logement, nous avons fait une kyrielle de propositions. Aucune n'est coûteuse pour Bercy, parce qu'on savait très bien que si on en proposait, on risquait si on proposait des solutions coûteuses, on savait très bien qu'on allait se faire retoquer. Et là, on attend. Et ce qui est embêtant, et on a une crise aussi psychologique de nos adhérents, c'est qu'on ne voit pas le ciel se dégager. On ne se reçoit pas de la part du ministère ou de la part de l'État en général. On ne reçoit rien. Alors, bien évidemment, on est content du plan d'action logement et de CDC. Et j'en profite pour remercier Bruno Arcadipane. J'ai déjà fait plusieurs fois. Mais c'est un pansement. Ça ne règle pas le problème de fond. Parce qu'une fois qu'ils nous ont racheté nos 30 000 logements, si ça ne repart pas, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? On va revoir Bruno pour demander d'en prendre 30 000. Donc, nous, ce qu'on veut, ce sont des mesures structurelles qui font qu'on peut être indépendant.
Je comprends complètement votre idée. D'ailleurs, on va essayer aussi de décrypter en fait les contours justement de cette crise inédite, crise conjoncturelle et structurelle, et effectivement avec les particularités que vous avez d'ailleurs bien indiquées, Bruno, sur le caractère inédit de cette crise. Philippe Jarlot, du point de vue du pôle Habitat FFB, donc vous avez des entrepreneurs qui sont adhérents au pôle Habitat, ils sont dans l'immobilier pour la plupart, vous êtes d'ailleurs vous-même aussi promoteur, comment vous réagissez aux propos d'Action Logement avec ce plan massif, je rappelle, un plan massif destiné à soutenir aussi le logement avec un objectif, c'est de rapprocher aussi les Français de leur activité professionnelle, puisqu'il y a un rapport direct entre l'habitat et l'emploi. Hein, c'est un vrai sujet et c'est un sujet majeur. Quand je vois les chiffres, et je vous ferai réagir tout à l'heure, sur le marché du locatif global qui est assez inquiétant en termes de volume aujourd'hui, ça devient extrêmement compliqué. Je vais vous demander aussi de réagir là-dessus, mais dans un premier temps, réaction sur ce qu'a dit Bruno Arcadipane et Pascal Boulanger, Philippe Jarlot.
Oui. Merci Sylvain. Bon, je ne vais rien rajouter sur ce qu'a dit Bruno Arcadi et Pascal Boulanger. Pascal a parfaitement résumé tout ce qu'il y avait dans la tête des constructeurs aujourd'hui. La FFB et Pôle Habitat, c'est toute la chaîne du bâtiment, hein, vous venez de le rappeler. Bon, alors, en effet, ce dont on a besoin, et c'est là où Action Logement nous aide énormément, eh ben, on a besoin de soutenir l'emploi. On a besoin de soutenir l'emploi, parce que s'il n'y a plus d'entreprises du bâtiment, si on ne leur donne pas de quoi bouffer, c'est sûr, ça va être difficile. Le bâtiment va, tout va. Là, on va en prendre une sacrée claque. Et c'est vrai que la proposition d'Action Logement est au moins une proposition, comme le disait son président, qui est rapide. Rapide, on voit bien, on a déposé les dossiers à la LI et tout de suite, pof, en 15 jours, on est orienté sur un bailleur, etc. Bon, on en reparlera peut-être plus tout à l'heure, mais c'est extrêmement rapide. Donc ça veut dire que derrière, ça va nous aider à lancer des opérations qui étaient, comme le disait Pascal, totalement bloquées. Alors je parle évidemment à court terme, hein, comme dit Pascal, sur cette année. Et il n'empêche que ces opérations bloquées qui vont être soutenues et si on se bat un petit peu, si on y met un peu de fonds propres et si on trouve des accords avec les bailleurs, avec des répartitions d'ailleurs de missions, hein, c'est tout à fait bien. D'ailleurs, on rentre plus du tout dans la guerre entre guillemets bailleurs-promoteurs. Et ça, je trouve ça génial. Moi, ça fait longtemps qu'on y travaille pour avoir toujours des liens avec les bailleurs. Mais là, en plus, ça va être clair et net. Il va falloir qu'on travaille. On va oublier cette guerre bailleurs-promoteurs et on va penser à l'emploi et au logement des Français à fond. Donc ça, c'est le côté, on va dire, si on peut dire, le côté positif. Voilà, mais ce qui est super, c'est que ce qui est proposé par Action Logement, ben, c'est un intérêt collectif, hein, c'est-à-dire permettre en effet aux cadres, aux employés de trouver des logements, parce qu'on en manque énormément, et c'est redit partout, quelles que soient parfois des thèses politiques ou idéologiques, on sait très bien qu'on manque crucialement de logements. Il faut construire du logement. Et faire de la réhabilitation ne suffira jamais à loger les Français. Il faut continuer à faire du neuf. Au moins, si on passe en dessous des 300 000 logements, ça devient objectif 400 000. Mais si on passe en dessous des 300 000, et on y est là, on est à 150 000 ce semestre, on risque de passer en dessous des 300 000 dans l'année, ça devient extrêmement critique. Voilà. Voilà, donc
on va entrer dans le vif du sujet justement par rapport au plan que vous avez développé. Je rappelle sur le communiqué de presse que vous avez indiqué en date du 10 juillet 2023, maintenir une offre locative de qualité pour les ménages salariés qui rencontrent des difficultés croissantes à se loger et en particulier dans les zones tendues. C'est un objectif. Vous avez soutenir l'appareil de production immobilière confronté à une crise multifactorielle, préserver le tissu d'entreprise du secteur du bâtiment et favoriser les transferts de savoir-faire vers les métiers de la réhabilitation tout en maintenant l'emploi. Vous avez fixé des caps qui sont des caps à la fois sur le soutien du marché en lui-même, mais avec une colonne centrale, j'allais dire une artère fémorale, qui est celui que vous avez chevillé au corps, qui est loger les Français. Quand vous voyez aujourd'hui et qu'on voit les statistiques de rentrée, que les étudiants renoncent pour 12% d'entre eux à leur projet puisqu'ils ne trouvent pas à se loger. Qu'on a des personnes en mobilité professionnelle, 17% d'entre eux, qui renoncent à signer un contrat de travail parce qu'ils n'arriveront pas à se loger. Qu'est-ce que ça éveille en vous? Et quand on voit d'ailleurs, Bruno Arcadipane, les objectifs que vous êtes fixés et les moyens que vous allez accorder, je vais vous dire ce que je ressens, moi, d'un point de vue observateur de cette vie immobilière. C'est que vous êtes la seule machine à avoir pris à bras le corps ce qui est en train de se produire dans ce pays. Moi, j'ai envie de vous poser cette question qui est un peu politique dans une certaine mesure. Vous devez vous sentir peut-être un peu seul, Action Logement, quand vous mobilisez à fond sur ce type de problématique.
Alors, pas du tout. D'abord, je ne me sens pas seul. On est 20 000 chez Action Logement.
Non, je veux dire, la machine
Action Logement. On est des centaines de milliers de personnes, si vous prenez l'ensemble de nos partenaires qui travaillent avec nous au quotidien. Et surtout, on a une responsabilité immense, c'est qu'on doit loger et aider à loger des millions de personnes. Et la seule vérité, elle est là. L'ADN, je l'ai dit tout à l'heure, c'est lié emploi-logement. Qu'est-ce que ça veut dire en détail? C'est un, loger les salariés qui n'ont pas de toit. Première priorité. C'est aussi loger ceux qui ont des changements dans leur vie. Des enfants, un divorce, etc.
Des cohabitations, ménages qui...
Mais surtout loger ceux qui sont en mobilité.
Bien sûr.
Loger nos jeunes. Parce que nos salariés de demain, c'est évidemment ceux qui sont en études aujourd'hui.
qui, qui n'arrivent pas à se loger en ce moment.
Avoir aussi beaucoup de bienveillance sur nos salariés les plus âgés, qui demain seront des retraités, etc., etc. Donc le groupe Action Logement, c'est une véritable machine à produire ce lien entre l'emploi et le logement. Nos boîtes, de façon générale, si je mets ma casquette MEDEF cette fois-ci, et pas celle de président d'Action Logement, nos entreprises, sur beaucoup de territoires, n'arrivent pas à recruter, n'arrivent pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à loger nos salariés, et notamment nos cadres et cadres supérieurs, dans des conditions qui sont optimisées. Donc, c'est pour toutes ces raisons que l'on a imaginé un plan qui, même pour nous, est novateur. Mmh. On n'a jamais créé un produit sur mesure de ce niveau. Je m'explique. On voulait de l'efficacité et de l'agilité, de l'efficience en clair. Donc, d'habitude, un groupe comme le nôtre, qui est extrêmement territorialisé, donne une consigne politique, on va acheter 30 000 logements, et les filiales immobilières qui sont les opérateurs de terrain discutent avec nos partenaires, etc., etc. Donc bien sûr, on les stimule, on discute avec, mais là, la crise est tellement importante. Le choc est tellement violent qu'on ne pouvait pas se contenter de faire ça. On aurait mis des mois à mettre en route et des années à acheter. Là, le système qui a été inventé par nos équipes est juste exceptionnel et formidable d'efficacité.
Comment ça fonctionne alors justement ?
On a créé une plateforme nationale dans laquelle tous les promoteurs, tous les opérateurs peuvent venir déposer leur dossier.
Elle a été ouverte le 12 juillet 2023.
Tout à fait. Et à l'heure où je vous parle, il y a 56 000 logements déjà enregistrés sur la plateforme. À date, aujourd'hui, 56 000. Notre besoin est de 30 000.
C'est énorme.
C'est énorme. C'est à la hauteur du choc en termes de rapidité.
À peine ouvert le 12 juillet, à peine la manifestation d'intérêt, vous avez déjà stocké en demande 56 000 logements.
Dès les premières heures, on avait des offres qui arrivaient. C'est pour vous dire.
Ouais, ça donne un.
Le ressenti.
Ouais, c'est stupéfiant.
Exactement.
Sylvain, si je peux me permettre d'interrompre mon ami Bruno pour donner un chiffre. La Fédération des promoteurs est heureuse quand elle fait plus de 160 000 logements par an. Année Covid, on fait 130 000. 2022, pire que l'année Covid, on fait 120 000. Et cette année, quand j'ai annoncé en début d'année qu'on ne ferait pas 100 000, on a crié que j'étais un fou, un défaitiste, etc.
T'as raison.
Et là, actuellement, on se bat pour savoir si on va dépasser les 80 000.
C'est du jamais vu, ça.
Donc, quand on envoie 56 000, c'est peut-être la différence entre 160 et 80 ou 90. On n'est pas très loin.
Non, mais c'est clair.
Non, mais voilà. C'est très
mais
bien. C'est stupéfiant.
Je vais au bout de ma démonstration sur l'efficience. Cette plateforme est regardée en maximum 15 jours par nos équipes du national. Elle cible notre opérateur interne. Et ce dossier nous intéresse. La filiale est choisie. Et la filiale a maximum 30 jours pour décider si elle fait ou pas et se mettre d'accord avec l'opérateur, le promoteur, le client, notre client. Donc, respect profond de la territorialité, discussion et engagement tenu vis-à-vis de nos partenaires, parce que le président, le conseil d'administration, je dirais de façon générale, d'Action Logement et même la direction générale d'Action Logement ne décide pas tout seul de quel logement et les 30 000, etc. Alors
justement, quels sont les critères de...
Mais les critères, en fait, ils sont relativement simples. On n'est pas marchand de biens. Un groupe qui a un peu plus d'un million de logements, qui est d'utilité sociale, n'est pas un marchand de biens. Donc l'objectif, c'est pas de dire, on n'a pas décidé à trois dans un bureau de dire, c'est moins 25, c'est moins 40, c'est moins 50%. Pourquoi pas, c'est les soldes. Je vois...
stop.
donc,
c'est clair.
C'était pas l'objectif. Mais le prix...
Mais le prix a quand même une importance, je veux dire.
Alors, le prix est essentiel, mais il doit être acheté au prix du marché. Si c'est pour tuer notre écosystème, si c'est pour tuer le promoteur qui nous vend, qui lui-même va tuer ses sous-traitants et créer du chômage, alors que nous,
oui, quand vous dites tuer, nous avons une ressource. À marge négative,
nous avons une ressource. Soyons un peu sérieux et un peu visionnaires. Je l'ai dit tout à l'heure, notre ressource vient des entreprises de plus de 50. Notre intérêt, c'est certainement pas de les tuer. Voilà, donc l'objectif, c'est pas que les promoteurs fassent des marges exceptionnelles, mais qu'ils puissent amortir la totalité de leurs frais et prendre une marge extrêmement serrée. Il faut être clair, c'est la crise. Voilà, mais notre objectif, il est là. Donc c'est un dialogue compétitif et de partenariat
prix du marché,
territorial
avec
et national.
Avec une décote quand même, il y a quand même... Ce
n'est pas un problème de décote pour nous, je l'ai dit, nous ne sommes pas des marchands de biens. On doit acheter au bon prix, collé au marché, mais il est aucun patron de nos opérateurs n'a un objectif chiffré de dire tu dois acheter à moins temps ou moins temps. Il doit acheter au bon prix pour respecter nos partenaires et respecter le prix du marché. Ensuite, l'emplacement est essentiel. Vous l'avez compris, nous, c'est l'emploi-logement. Oui. Donc, on ne va pas aller acheter des logements, même pas chers, à un endroit où il n'y a pas de demande de salariés.
Bien sûr.
Voilà.
Mais c'est quoi? C'est toutes les grandes métropoles? C'est les villes moyennes? C'est quoi en général? Si on devait cartographier.
Les bassins d'emploi. Je crois qu'il faut dépasser ce truc de zone tendue, etc.
Oui, là où il y a de la demande d'emploi.
Prenez la Vendée. Vous connaissez une métropole, vous, en Vendée? Vous connaissez des zones tendues, etc. Toutes, elles sont tendues. Partout où il y a une entreprise, on n'arrive pas à loger nos salariés. Le pays d'Aix, je suis désolé, mais vous voyez, donc c'est plus complexe que ça. On va faire du A1, du B2 ou je ne sais pas quoi. Il faut être très pragmatique. Il y a une zone d'emploi, il y a une dynamique économique. On doit acheter des logements pour y loger les salariés. Et le troisième point, qui est essentiel pour un groupe comme le nôtre, on a lancé en novembre l'année dernière un plan RSE ultra massif. Donc on doit acheter des constructions de grande qualité. Et si on revient au point numéro un, si vous essorez tout le monde, si les mecs bouffent des ronds sur tous les dossiers, ils n'ont même plus les moyens de construire à la fois correctement, mais surtout d'innover et de continuer un travail de fond qu'un groupe comme le nôtre se doit de porter et de faire évoluer l'ensemble de la profession. Et non pas, comme l'a dit le chef de l'État il n'y a pas très longtemps, industrialiser, inventer des machines pour construire. Voilà, aujourd'hui, on a des savoir-faire, on a des métiers à sauvegarder, on a des gens qui savent construire un niveau de qualité exceptionnel en Europe, voire au niveau mondial. Profitons-en, profitons de cette expertise, de savoir-faire et travaillons cet écosystème pour que ce dernier perdure et se développe, pour que le plein emploi revienne. Parce que je crois que la Première ministre a été très claire hier, la priorité absolue, c'est de revenir au plein emploi. Et on ne peut pas y arriver si on est les uns contre les autres, on ne peut y arriver que si on est ensemble.
C'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est extrêmement clair. Réaction, Pascal Boulanger, sur à la fois la notion de prix, je pense que vous avez un discours de transparence et de grande clarté, l'emplacement des logements et enfin la qualité des bâtiments.
Bruno a bien résumé, moi je peux rentrer plus dans le détail des prix. Le raisonnement d'Action Logement n'est pas le même que celui de CDC Habitat. CDC Habitat est parti d'une rentabilité et nous a fait des offres qui ont le mérite d'exister, mais qui sont quand même très souvent en dessous de notre prix de revient. Je ne critique pas, ils ont un raisonnement, je suis bien entretenu avec eux. Le raisonnement que vient de développer Bruno est le suivant. Il dit, j'ai pas envie de tuer mes clients. Et donc, on a échangé avec Bruno, bien évidemment. Bruno connaît un bilan de promoteur. Nous, on va être très très clair là-dessus. C'est ce que j'appelle à peu près les 3 fois 5. On a, dans nos bilans d'opérateurs, on a environ, ce sont les marges actuelles et la moyenne des promoteurs, 5%. On a 5% d'honoraires de gestion, à peu près, et 5% d'honoraires de commercialisation. Quelquefois, ça peut aller jusqu'à 6. Mais retenons ces notions. Nous, les honoraires de gestion, on en a besoin. C'est ça qui rémunère nos salariés. Bruno l'a bien compris, on a échangé aussi avec Nadia Bouillet, que je vois qui est là, que je salue. Les honoraires de commercialisation, bien sûr qu'on peut les supprimer, on traite en direct, il n'y a pas d'intermédiaire à payer. Et nos marges, qui sont voisines actuellement en moyenne de 5, des fois elles sont de pas grand-chose, des fois elles sont de plus, mais la moyenne est de 5, on est bien évidemment d'accord sur le fait de les baisser très sérieusement. Mais si on s'en sort, nous le problème c'est que la machine ne tourne plus assez vite, donc on a un problème de fonds propres. Il faut bien comprendre que nos fonds propres sont bloqués dans des appartements en construction.
Bien sûr.
Et donc on ne peut rien redémarrer tant qu'on n'a pas récupéré nos fonds propres, parce que les banques, pour relancer de nouvelles opérations, nous demandent un montant de fonds propres. Donc si, grâce à l'intervention d'Action Logement, on peut déstocker, payer nos salariés, récupérer nos fonds propres et faire, comme l'a dit Bruno, une mini-marge, mais même une mini-mini-marge, oui, on comprend. De toute façon, on n'est pas parti pour faire des grosses marges. On sait très bien que la conjoncture ne le permettra pas. Donc voilà tout le raisonnement. Et si ça part, effectivement, on pourra démarrer nos opérations. Alors il y a quand même des pièges. Des pièges non pas d'Action Logement, mais des pièges du système. Parce que ce que je commençais à dire tout à l'heure, c'est que Action Logement nous permettra de démarrer des opérations. Vous savez, les fameux quotas que nous demandent les banques pour nous donner nos crédits promoteurs et nos garanties financières d'achèvement. On est actuellement, au début, c'était, il y a 30, c'était 30%. Maintenant, on est plutôt entre 40, voire 50, voire 50 plus. Donc on a le quota, d'accord, mais on démarre, donc nos travaux, on démarre. Mais si après on ne vend pas. C'est pour ça que je dis, attention, merci Action Logement et sans aucun bémol, mais il faut aussi que le marché reprenne de par lui-même, parce qu'une fois qu'on a lancé notre opération, sûrement plus rien, là ça va être une vraie catastrophe. Donc merci Action Logement, je le répète et je le dis beaucoup, mais parce que je le pense, mais il faut aussi des mesures qui permettent maintenant de pouvoir vivre de façon autonome.
On est très clair. Une réaction là-dessus, Philippe Jarlot ?
Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de ce qu'a dit Pascal ? Il a très bien expliqué les 5%, les 3 fois 5%. Je suis complètement d'accord qu'aujourd'hui, on sait très bien que nos marges vont baisser. Alors, il faut quand même garder une toute petite marge, parce que si on n'a pas cette petite marge sur au moins l'ensemble de l'opération, le banquier non plus ne va pas nous suivre, parce qu'il ne va pas commencer si on est en perte. Sur ce, je salue aussi les partenaires financiers qui, aujourd'hui, sachant tous les soucis qu'il y a par l'augmentation des taux, acceptent de jouer le jeu sur le fait qu'on n'a plus besoin d'une marge de 5-6% et qu'on peut, si justement on assure 50% en gros de la commercialisation, par exemple, grâce à Action Logement, à ce moment-là, ils acceptent
très clair,
d'avoir
dans le cadre
une plus
d'une
petite marge.
En VFA, imaginons que l'une des filiales d'Action Logement s'intéresse à un programme en particulier parce qu'il répond aux trois critères que vous avez évalués. Ça donne, vis-à-vis du banquier, vis-à-vis des fonds, vous avez besoin, je crois, c'est 30% de fonds propres lorsque vous montez une opération.
Non, beaucoup moins.
Entre
5 et 15, on va dire. Mais entre 5 et 15. La moyenne, si on dit un gros 10, on est dans le vrai.
Donc ça veut dire que le plan massif de Bruno Arcalipane, président d'Action Logement du groupe Action Logement, favorise l'émergence et le développement de ces projets. On est d'accord là-dessus ?
Bien sûr, c'est tout le but.
Donc là, vous êtes vraiment dans le cœur du réacteur, Bruno, parce qu'en fait, vous soutenez véritablement l'action à la fois sur l'achat en stock des bâtiments qui ont été construits et qu'il faut effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, très justement déstocker, mais aussi sur les programmes en cours, ou certains d'ailleurs, programmes qui n'ont pas encore vu le jour, des permis instruits, purgés, parce que effectivement, question sur la faisabilité de l'opération.
Il reste dans les tiroirs.
Absolument.
Alors, il faut qu'on rajoute quand même un quatrième accord nécessaire, il me semble.
Avec Action Logement ou...
Non, pas avec Action Logement. Accord sur prix, accord sur emplacement, accord sur la qualité du bâtiment. C'est très clair, c'est simple. C'est pas nouveau d'ailleurs, c'est sûr. Mais bon, voilà, on a toujours travaillé comme ça avec eux. Mais il y a quand même un accord supplémentaire dont il faut parler, c'est l'accord du maire. Voilà, c'est l'accord du maire sur le fait de faire du logement locatif intermédiaire sur des communes où, c'est vrai, des maires en ont trop de leur pourcentage de locataires est trop important au sein de leur commune, et même sur du LLI, c'est un petit peu difficile. Ce n'est pas du logement social, bien sûr, mais c'est quand même difficile de convaincre les maires de faire du LLI. Et là, il y a un travail encore, je pense, que tous les trois, nous avons à faire.
Dernière partie, très rapidement, je voudrais qu'on évoque les contours du marché plus globalement de l'industrie immobilière. Je vous avais donné les chiffres de la location. Le marché de la location, le marché locatif privé, en cette rentrée 2023, Alors là, moi, je vous le dis, moi, franchement, avec le recul que j'ai dans le métier, c'est inédit, j'ai jamais vu ça. Une offre qui s'est réduite de façon très importante. Je vous donne juste un chiffre. Sur les moteurs de recherche, hein, Sologé, Bianchi ou autres, entre 2019 et, entre 2019 et 2023, le volume d'annonces à la même période sur le marché locatif s'est réduit de 48%. 48%. On a des personnes qui ont stoppé leur parcours résidentiel puisqu'ils n'arrivent plus à obtenir notamment des crédits pour leur première acquisition, par exemple, et donc ils ne sortent pas du marché du locatif. Une réaction, justement, sur cette panne globale, et vous la ressentez, à mon avis, aussi, Bruno Arcadipane, dans votre organisation, sur le marché locatif, qui fait que, et ça, c'est incroyable, et c'est absolument stupéfiant, qu'il y a des étudiants, par exemple, qui dorment dans leur voiture, qui renoncent à leur projet pédagogique, à leur projet de vie professionnelle. On a même 17% dans certaines régions des personnes qui refusent de signer un CDI parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas logés dans telle ou telle région. Ça devient extrêmement préoccupant. Un avis, une analyse sur ce phénomène que vous essayez bien évidemment avec cette action de combler. Mais quelle est votre analyse sur ces chiffres? Vous les connaissez, hein,
Oui, bien sûr. On les connaît. Ici, on met ça en relief avec une demande de logement social qui fait que évidemment exploser.
Bien sûr.
Il n'y a pas d'offre de l'autre côté.
Bien sûr.
On va finir par faire exploser le système.
Des contraintes opposées qui deviennent intolérables.
Enfin, quand je parlais de retournement de situation tout à l'heure, retournement de marché. C'est bien à ça que je faisais allusion, de façon globale. C'est gravissime. À force de dire que c'est pas grave, que ça va passer, que les choses vont s'arranger, c'est faux. Ça ne fait qu'empirer. Donc, à ça, il y a plusieurs remèdes. On fait tous des incantations, on imagine, on fait des prières et on brûle des cierges. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne va pas être très efficace. Après, on essaie d'arrêter les problématiques, en tout cas les freins ou les bâtons qu'on nous met dans les roues. Je donne deux exemples. On est là depuis deux jours, quasiment. On nous dit qu'il faut faire du ZAN à mort avant même que le truc soit mis en place. Fait du ZAD, il faut réindustrialiser, il faut construire du logement.
C'est plus cher.
Là,
dans la même phrase, il y a presque une contradiction. Oui, effectivement.
Même plusieurs. Aujourd'hui ou demain matin, on n'a pas de représentant de la FNAIM, mais on pourrait faire leur porte-voix. On va retirer du marché de la location tous les F et G...
Entre 2025 et 2028 et jusqu'à 2034.
Et ça choque personne. Ça choque personne. Au moment où il y a la crise, certainement la plus importante, on va retirer...
C'est plus de 2 millions de logements qui vont être retirés si jamais ils ne sont pas qualifiés, effectivement. Vous avez raison.
Ils viennent s'ajouter aux 48%.
Absolument.
On est d'accord.
Oui, on est absolument d'accord. Le constat est terrifiant.
Je vais pas aller plus loin.
Voilà.
Aujourd'hui,
c'est très clair.
Mettez-vous à la place du bailleur privé. Qui a deux ou trois logements pour assurer sa retraite, son truc, etc. Vous pensez qu'il fait quoi quand il voit tout ça? Il retire ses logements du
exactement,
marché.
Exactement.
Et là, la situation, c'est le coup d'après qui m'inquiète encore plus
le
que la situation.
Le petit bailleur croule sous une fiscalité qui est limite confiscatoire et une inflation normative qui est juste intolérable à assimiler. Vous avez résumé la situation.
Il essaye de les vendre parfois.
C'est très clair. Philippe Jarlot, une réaction?
Oui, Philippe.
Oui, les logements qui sont FEG, et si le propriétaire n'a pas les moyens de les rénover, parce que souvent, c'est pas 5 000 euros. Il y a une aide de 5 000 euros, mais il faut certainement mettre plutôt 30 000 euros. S'il n'a pas les moyens, il essaye de les vendre.
Il les vend.
Sauf qu'aujourd'hui, la vente est très difficile, puisque les acheteurs ont perdu 20% par l'augmentation des taux, 20% de leur pouvoir d'achat.
C'est clair qu'aujourd'hui, la prime est à la liquidité, hein, comme dirait l'autre. Pascal Boulanger, une réaction là-dessus, pour conclure cette table?
Une réaction, on nous a, nous, tous les intervenants à l'acte de construire, on nous a fortement critiqués, notamment dans les ministères, on nous traitait d'oiseaux, de mauvais augure, etc. Maintenant, on est dedans. Je disais il n'y a pas longtemps, nul ne pourra nous reprocher d'avoir alerté. Il y a un nouveau ministre du logement qui vient d'arriver, il s'appelle Patrice Vergriet.
Que vous avez rencontré.
Je viens de le rencontrer. Écoutez, laissons-lui la chance, laissons la chance au produit, comme on dit en termes de commerce, mais on va s'il n'y a pas de sortie, de fait d'annonce. Hier, il me commençait à me parler de commission, etc. J'ai dit stop, on a joué le jeu, on a fait toutes les commissions, on a toujours joué le jeu. Maintenant, il a tout sur le bureau, je disais tout à l'heure non, en début d'interview. On attend des mesures, mais on va finir par être de mauvaise humeur.
Ouais. Remarquez, dans les 10 dernières années, on n'a jamais eu que à peu près 27 rapports sur le logement. Et je crois qu'on est entre 13, 14 ou 15 commissions. On aime beaucoup ça.
Non, mais non, on a joué le jeu, tout. Les contributions, ils ont tout. Hier, commençait à me dire qu'on pourrait peut-être se rencontrer. Je dis non, vous avez tout. le bateau coule.
Et vous avez
j'ai des adhérents. J'ai eu un adhérent hier qui était en pleurs. Voilà. Et qui m'a donné ce chiffre, donc c'est bon. Quoi. Maintenant, c'est bon.
Dites-moi ce dont vous avez besoin et je vous expliquerai poliment comment vous en passez.
Bon,
bon, alors, pour conclure, en une phrase, Bruno Arcadipane, on va essayer de se quitter sur une touche, on va dire, relativement positive. Voilà, si vous devez définir là, le fait, cette température ambiante, rêve 2023, marquée par la présidence de Patrick Martin, qui vient d'être élu à la tête du MEDEF. Voilà, qu'est-ce que vous diriez en quelques mots pour conclure cette table ronde?
On a la chance d'avoir un président qui connaît bien ses problématiques, qui a toujours été en soutien du monde de la construction et d'Action Logement en particulier. Quelqu'un qui vient d'un territoire, qui est un acteur de terrain, un grand chef d'entreprise. Donc moi, je suis sur cet aspect-là extrêmement positif. Après, comme tout le monde, j'ai quelques inquiétudes. Quand je regarde les chiffres des investissements américains et ceux de l'Europe, ça m'inquiète beaucoup. Et puis pour en revenir purement à la construction, j'ai peur lorsque j'entends des ministres qui ne veulent pas ouvrir les yeux, et je ne parle pas de Patrice qui vient d'arriver, mais on est souvent pas entendu, ou en tout cas pas à la hauteur du drame qui est en train de se dérouler sous nos yeux.
Merci Bruno Arcadipane. Philippe Jarlot, quelques mots de conclusion?
Oui, alors pour gagner la bataille du logement, hein, il y avait un bouquin qu'avait lancé Jean-Luc Laglaize, où on a participé. Pour gagner la bataille du logement, c'est comme la guerre, il faut les gagner sur tous les fronts. Et je voudrais quand même dire un mot sur le locatif qui nous permet de relancer grâce à Action Logement. Mais il ne faut pas oublier, et Pascal l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier demain, quand il y aura les 30 000 logements achetés, qu'est-ce qui se passera demain? Et je pense qu'il ne pourra pas se passer de bonnes choses si on n'arrive pas à relancer l'accession à la propriété. Voilà. Et l'accession à la propriété, il y a eu des propositions. Il y a des propositions faites à la FPI, il y a eu des propositions faites par nous. Le prêt à taux zéro, pourquoi pas le doubler pendant un an pour casser ce pouvoir d'achat qui manque de 20% si on le double pendant un an. Quitte à d'ailleurs que tout le monde y participe. L'État peut y participer, les banques peuvent aussi y participer et les promoteurs peuvent aussi y participer. C'était une proposition qui a été faite, qui est sortie dans les échos il y a un mois. Il peut y avoir aussi un crédit d'impôt. Ils ont un problème il nous manque 20%, 20% à peu près de pouvoir d'achat. Pourquoi pas sur 5 ans donner, ou sur 10 ans, donner 2% de crédit d'impôt sur un achat accession, pour que les banques en face disent « Ah ben vous allez avoir 2% de votre achat pendant 10 ans, donc j'accepte que vous ne mettiez pas autant de fonds propres pour obtenir le crédit. » Vous savez qu'aujourd'hui, la moyenne maintenant pour être capable d'acheter une maison ou un appartement, c'est 70 000 euros d'apport.
En moyenne.
En moyenne, c'est impossible. Les gens ne peuvent pas acheter s'ils n'ont pas 70 000 euros d'apport compte tenu du pouvoir d'achat. Donc il y a des petits systèmes qui coûtent très peu
fait,
à l'État et qui peuvent se mettre pour relancer l'accession à la propriété.
Voilà.
Sans oublier que l'accession à la propriété est un super une réponse au problème du déracinement. Hein, ça enracine les populations. Simone Veil, la grande philosophe, le disait. Et puis, pour gérer aussi le problème des retraites.
Bien évidemment.
Voilà.
Merci.
D'ailleurs, Action Logement passe son taux à 1% au 1er septembre. C'était une décision forte que le conseil d'administration
pour les prêts accession
a pris cet été. Donc pour
justement, aller... on peut dire un mot, le prêt accession, c'est comment ça se passe, les modalités?
Alors, le prêt accession est un prêt historique hein, chez Action Logement. Il était à un taux bien plus élevé jusqu'à ce matin, puisque le taux du marché, les taux sont enflammés. On était à 1,80 si j'ai bonne mémoire. Mmh. On va le ramener à 1 pour justement, comme le disait Philippe très justement, aider, remettre le pied à l'étrier au primo-accédant.
D'accord.
Malheureusement, notre prêt est assujetti au bon vouloir et à l'acceptation des banquiers purs et durs. Et malheureusement, souvent, même avec notre prêt à 1%...
Qui compte dans l'apport.
Qui compte dans l'apport.
Ça peut se cumuler avec le prêt à taux zéro ?
Alors, il est cumulable, évidemment, mais malgré tout ça... Aujourd'hui, c'est très compliqué quand c'est un primo-accédant
avec les banques,
avec le monde bancaire.
Merci, Sylvain.
Oui, rapidement.
Encore mieux. Oui. Nous, on a dit nos coûts, nos marges, nos frais. L'État prend 20% sur un logement.
20%.
Nous, on dit quelquefois le logement est cher. C'est un bien de première nécessité. Prend 20% de TVA. Et avec les taxes diverses, le logement, c'est 27% de taxes. Bon, d'ailleurs, ils commencent à se rendre compte, ils commencent à nous dire bah, « Tiens, comment ça se fait qu'on rentre moins de TVA immobilière ?» Déjà, il est DMTO pour ce qui est de l'ancien. Voilà, je voulais le dire.
DMTO, voilà, droit de mutation, un titre onéreux pour ceux qui nous écoutent. Voilà, on va espérer effectivement que tous ces éléments-là, en tout cas, puissent permettre la relance de l'industrie immobilière et de la construction de logements neufs. Il s'agit du logement des Français et d'abord du logement des Français pour rappeler qu'il y a des gens, on loge des vies, des personnes qui créent. Et dans le logement, hein, il y a aussi toute la définition de l'identité sociale, de l'identité républicaine. Et je pense que vous êtes tous partie prenante de cela. Merci Bruno Arcadiban.
Merci à tous.
Président d'Action Logement, je rappelle que cette plateforme est ouverte, elle est accessible sur Internet et toutes les informations sont disponibles sur le site d'Action Logement. Merci à Philippe Jarlot, représentant du Pôle Habitat FFB. Un clin d'œil à son président Grégory Monod, qui n'a pu se déplacer, mais vous l'avez dignement remplacé. Merci beaucoup. Et enfin, un triomphe à Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Ne changez rien, Pascal. On se reverra, bien évidemment, très régulièrement sur Radio Immo. Belle journée à tous.
L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème « Demain ne meurt jamais », un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Immo et Radio Territoria.